Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouvel épisode d'Au Café Avec. Cette fois, on est dans l'actualité et dans l'histoire avec Grégory Quint, l'historien de l'UNIL de Lausanne. Avec lui, on va évoquer son livre qu'il a coécrit avec deux autres auteurs sur l'histoire du ski en Suisse. Alors forcément, ça part de Lara Gout et Marco Odermatt, mais ça revient en arrière jusqu'à Bernard Russi ou Roland Colombin, en passant par les premières stations dans les Grisons ou à Glaris ou un peu partout en Suisse. Et on va se rendre compte que le ski est sans doute le sport numéro un dans notre pays. Une interview fascinante à écouter, bah, direct depuis le café en fait. Bonne écoute. Première question basique, est-ce que la Suisse serait la Suisse sans le ski?
C'est une bonne question, pour retourner la question, est-ce que le ski serait le ski sans la Suisse? Mais je pense très sincèrement, et c'est pour maintenant pour faire la promotion à bas coût, mais je pense que c'est le seul sport vraiment national en fait. En Suisse, peut-être même un peu trop national, on peut en discuter. C'est vraiment le truc identitaire en fait. Le foot, c'est clairement peut-être le sport le plus pratiqué à voir avec la gymnastique, mais il y a dans le ski un truc qui renvoie à la Suisse, peut-être même plus que dans d'autres pays comme l'Autriche ou la France.
Tu en as fait un bouquin et justement, t'as défloré ma question d'après. Attention, c'est peut-être un peu politique, pas politiquement correct. On voit qu'au foot, l'équipe nationale est quand même beaucoup fondée avec des secundos, avec des éléments importés, je dirais. Le hockey, ça commence. Est-ce qu'en fait, l'assimilation par le sport, le ski ne la fait pas encore tout à fait? Parce qu'on voit des Albanais qui commencent à jouer au hockey, des Noirs, ça se démocratise. Est-ce que le ski n'est pas l'ultime bastion?
Le ski est en tout cas celui qui aurait pu aussi contribuer à la démocratisation d'une certaine manière, en fait. À l'échelle du 20e, 21e siècle, c'est les années 80 qui sont les années où le ski est le plus accessible. Il y a des camps de ski un peu partout. Quand on regarde dans le temps long les abonnements, une semaine de ski en général, c'est là qu'elle est la moins chère, en gros, dans tous les domaines suisses. Et depuis les années 80, malgré tout, malgré le Magic Pass, malgré tout ce qu'on veut, ça se réélitise, ça redevient plus cher. Et du coup, c'est plus difficile de faire de l'intégration avec un sport qui devient de plus en plus cher quand on sait les dynamiques sociales à l'œuvre derrière l'assimilation progressive des différentes vagues migratoires. Donc, le ski pourrait, mais il le fait pas parce qu'il est intrinsèquement identitaire ou blanc comme la neige, comme on peut le lire à droite à gauche. C'est juste parce qu'en fait, il est dans une phase où il se réélitise, il redevient plus cher et donc, ben, c'est plus compliqué d'intégrer en fait dans cette dynamique.
Bah, parlons un peu de ton bouquin. Ça commence quand? Ça commence avec la première latte posée en Suisse.
Alors cette quête des origines, on l'a assez vite laissé de côté parce que voilà, selon qu'on regarde un bon ou un mauvais documentaire, on nous remonte des images d'il y a 8000 ans et puis on nous dit qu'on avait déjà des lattes, etc. Non, plus sérieusement, l'histoire du ski en Suisse démarre quelque part sans doute dans les années 1880-1890. Le premier ski club de Suisse, c'est à Glaris, 1893. Et donc, là, l'histoire commence, en fait. Et c'est à peu près dans ces années-là qu'on fait démarrer l'ouvrage.
Le tourisme se développe aussi en Suisse avec le ski. La Suisse serait devenue une destination touristique comme ça sans le ski? Parce que, y a eu beaucoup de pour la médecine, il y a eu pour le bobsleigh, pour plein de choses. Mais est-ce que le ski, ça a encore permis de passer un step?
Alors, très clairement, le tourisme et le ski, en fait, ont des destins qui sont liés. En fait, le début des sports d'hiver en Suisse, donc à partir des années 1860, au fin fond de l'Engadine, et puis après de plus en plus jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est un tourisme de bobsleigh, c'est un tourisme de patinage, c'est un tourisme de pseudo-ski sur des pseudo-lattes qui ressemblent plutôt à des raquettes, on sait pas trop, enfin, mais c'est pas ça. Et en fait, quand ça devient, entre guillemets, des liaisons dangereuses, si on veut le dire comme ça, c'est plutôt même après la Seconde Guerre mondiale, en fait, où là, ça devient une industrie, en fait, très clairement. Où en fait, on commence à construire des domaines skiables, on met des remontées mécaniques de plus en plus efficaces, de plus en plus grandes, etc. Et là, il y a une espèce de couronnement, en fait, de ces relations entre ski et tourisme. Et la Suisse est au premier plan, en fait. Hein. On dit parfois que la Suisse serait un grand pays si on pouvait la repasser. Elle a en tout cas des domaines skiables nombreux. Elle a aussi une antériorité, en fait, de l'occupation de la montagne, ce qui fait qu'on n'a pas eu ces choses qui à l'époque nous paraissaient moches, comme par exemple la Voria en France, ouais. Mais qui en fait, vu d'aujourd'hui, recommencent à devenir presque un peu sexy, efficace, parce que dans un moment de développement durable, où en fait on a fait un truc, on l'a arrêté, puis c'est presque maintenant parfaitement situé, très haut en altitude, on peut continuer à le faire, alors que certaines stations suisses de moyenne ou de basse altitude ben, ont de la difficulté, et puis maintenant, prolonger des domaines skiables au début du XXIe siècle, c'est devenu quasiment mission impossible.
Non, on n'a pas tellement en Suisse ces avoriages, il y a peut-être Thion 2000, mais sinon c'est presque, pas, j'allais pas dire naturel, mais c'est presque des endroits qui étaient déjà colonisés.
Alors, effectivement, il y a Thion 2000, bon, Verbier d'une certaine manière a eu un développement très fort similaire, mais où on a eu les moyens de faire des petits chalets qui ressemblaient à ce qu'on a supposé être avant, mais soit dit en passant, à Verbier en 1947, il y a 3 mayens et 2 vaches, quoi. C'est, on n'a rien gardé d'avant, on a tout construit. Il y a eu à Minona aussi qui a été un exemple, on a voulu faire très grand, et finalement on n'a pas fait grand chose, mais ça ressemble un peu à Voria. Mais sinon, en fait, la plupart des stations de ski qu'on a en Suisse, Andermatt, Saint-Moritz, Davos, il y avait déjà des trucs au tout début du XXe siècle, en fait. Et donc, on a élargi, on a fait grandir, plus ou moins de manière élégante du point de vue architectural, mais voilà, on s'est servi de ça. La France, elle, avec son fameux plan neige du général de Gaulle, ben, on a bétonné dans les années 60, quand on n'avait pas encore les écolos sur le dos, et qu'on avait des grandes idées qu'il fallait que tout le monde aille skier, etc. En Suisse, on a la chronologie est un peu différente, et quand on a voulu avoir ces grands projets à Minona ou autre, on était déjà dans les années 70, la mentalité ou la sensibilité écologique, environnementale, paysagère montait, et donc ça, ouais, ça s'est agencé clairement un peu différemment, mais enfin, on a l'habitude de le dire, et la plupart des dirigeants de stations le disent, en fait, le ski c'est la vache à lait, en fait, du truc, c'est... Tu fais tourner tes remontées, puis t'as le cash qui rentre. Y a pas besoin de se poser beaucoup de questions, en tout cas jusqu'à présent. Et ça rentre, et voilà, donc c'est clairement... C'est presque un peu incestueux, en fait, ces relations entre ski et tourisme.
Alors forcément, le sport de compétition va avec. On sait, en Suisse, il y a d'immenses stars qui sont devenues peut-être un peu malgré elles, hein, des Vreni Schneider, des Paula Kola, elles n'ont peut-être pas demandé à être connues, c'était juste bon sur les skis. Dans l'imaginaire suisse, pourquoi est-ce que ces skieurs sont presque déifiés comme ça?
Je pense qu'en fait, alors il faut se dire deux choses, c'est que je pense quand même que, alors, un, purement de détail de l'histoire, en 1964, c'est le fameux drame d'Innsbruck, la Suisse rentre sans aucune médaille des Jeux Olympiques qui sont organisés là-bas. Derrière, il y a une réflexion politique qui se met en œuvre pour financer le sport, tout sport confondu, mais aussi le ski. Et après ça, on a d'abord la première génération, entre guillemets, Russie-Colombin, 72, Sapporo. Voilà, ça devient un peu un truc. Dans les années 80, avec Cromontana, etc., on a une deuxième génération de gens en haut de l'affiche. Et je pense que cette chronologie, elle est importante, parce qu'en fait, dans le même temps, 1972, c'est aussi jeunesse et sport, c'est les camps de ski à très très grande échelle, et en fait, les conditions sont réunies pour l'identification. On a soi-même des lattes aux pieds, tout le monde, ou presque tout le monde, on va dire. Et on a à la télé le samedi après-midi ou le samedi matin à l'heure de l'apéro chez Tonton Michel, on a Russie, on a après Zurbriggen, et après les générations vont se suivre, il y a des trous des fois, il y a 2-3 années où ça va moins bien, mais voilà, il y en a qui ont eu Zurbriggen, après c'était des fagots, couches, c'est tout le temps là. Et alors, si la pratique de camps de ski tend à diminuer un peu pour des raisons écologiques, pour des raisons de financement des camps, etc., les stars sont toujours là, et donc on a ce phénomène identificatoire, il est possible, et peut-être, paradoxalement, peut-être presque plus que dans le foot, en fait, ou alors, on a peut-être tous déjà dribblé un ballon, mais on a peut-être tous joué un dimanche matin avec des potes, mais de manière aussi systématique, encadrée par l'État, dans une volonté politique, ça n'existe pas, et on comprend pas pourquoi ces champions et ces championnes sont importants, si on comprend pas qu'en fait on les a déifiés, ski au pied.
C'est quand même une époque où le foot féminin n'existait pas, le hockey féminin, j'en parle même pas, peut-être la gym, l'athlétisme, mais là, le ski, les filles étaient quasi sur un pied d'égalité déjà. ce qui est phénoménal dans ces années-là.
Alors c'est un phénomène assez intéressant du ski, mais en fait c'est un des rares sports qui, quand il crée ses championnats du monde en 1931, à Mulrun d'ailleurs, en fait les femmes et les hommes participent tout de suite, ensemble. Alors ensemble non, parce que chacun a son épreuve, y a pas, c'est pas mixte, hein, malgré les volontés plus tard de certaines. Mais il y a peu de sports en fait où il n'y a pas eu d'abord un championnat du monde masculin, puis 10, 20, 30 ans plus tard un championnat. Là c'était tout de suite, et à mon avis, pour l'avoir un peu étudié pour des temps récents, ça a aussi à voir avec le fait que finalement, bah, une skieuse dans une combinaison sur une piste de ski, ça ressemble quand même à un skieur en fait, et vice versa. Il n'y a pas de dimension corporelle comme on peut le dire peut-être dans la natation, dans la gymnastique, dans d'autres sports, où on peut plus facilement tomber sur des stéréotypes de genre et puis on peut jouer là-dessus. Je pense que c'est un peu plus neutre. C'est un hiver, on est obligé d'être habillé, etc. Donc ça, je pense que c'est un phénomène, mais je reviens juste en arrière, hein, sur ne pas oublier que si le ski devient un sport national, y compris par ses championnes et ses champions, certains, 8 ans, 9 ans, certains se rappelleront de la Coupe du Monde aux États-Unis en 94, mais ouais, c'était un iceberg au milieu d'un océan de nullité. L'équipe suisse de foot n'existe pas,
ouais,
de la fin des années 60 au début des années 2000, en fait. On est aveuglé par la réussite plus ou moins flamboyante des dernières deux décennies, mais avant 2002, pas grand-chose dans le foot, quoi, à se raconter au niveau international. Alors le championnat,
même dans le sport tout court.
Même dans le sport tout court, en général, c'est le ski qui truste en fait les journaux. Moi, je me suis un peu amusé à lire le fameux journal Sport, qui avait son équivalent Semaine Sportive en Suisse romande. Mais en fait, c'est fascinant parce qu'en fait, on trouve des résultats de ski encore au mois de juin. Parce qu'ils ont réussi à nous trouver au fin fond d'une vallée où il y avait un glacier, encore une compétition entre trois villages.
Ouais.
Et en fait, dès le mois de mi-juillet, comme aujourd'hui un peu le foot, en fait, on recommence à nous parler de la préparation d'un tel, de tout. Et c'est fou en fait, parce que c'était vraiment le sport national en fait. Alors, on doit quand même dire en passant, hein, que le football de club,
oui,
suisse a eu quand même des belles années entre les années 80 et 90. Quand même.
Parce qu'il y avait des moyens.
Parce qu'il y avait des moyens plus ou moins légaux en fait, voilà, d'avoir des bons joueurs en fin de carrière qui ont fait faire des parcours européens à Xamax ou d'autres. Mais globalement, on n'avait pas dans le foot de stars équivalentes, comme dit, à Zurbriggen ou à Valizer, Fijini, enfin, cette génération qui remonte à 8 ans, 7.
Cette génération, justement, elle était ultra médiatisée, puis j'y reviens, c'était pas forcément volontaire. Il y avait des stars, mais c'était pas forcément des stars médiatiques. Ça parlait sur les skis.
Ouais, alors on était aussi dans un système médiatique, c'est pas, je vais l'apprendre à personne, qui était très différent. En fait, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas. Voilà, il y avait deux journaux papier, l'un étant la traduction en allemand ou en français respectivement de l'autre. Il y avait une chaîne de télévision avec son journaliste en charge du ski, en fait, qui était peut-être même lui plus connu en fait que les skieurs ou les skieuses qui l'interviewaient. Et les gens regardaient presque plus les interviews pour le journaliste que pour le skieur ou la skieuse. Donc c'est d'autres logiques médiatiques, etc. Malgré tout, en fait, il faut pas se leurrer. Typiquement, voilà, la fameuse opposition de style entre Russie et Colombin, elle était aussi en partie construite par eux, quelque part, en fait. C'était pas seulement les journalistes, mais oui, ils avaient, eux, une volonté, en fait, un peu de s'afficher comme ça.
C'était notre Ronaldo Messi, quoi.
C'était un peu ça, et puis bon, bah, n'oublions pas, enfin, je veux dire, les plus âgés se rappelleront des clips, ou en tout cas des publicités de Russie qui vantaient la marque Subaru à la télévision déjà. Russie se retrouvait à faire du Véronique et Davina à la télé à l'époque, hein, pour vous préparer à l'automne pour la saison de ski. Donc c'était quand même des stars, c'était des stars évidemment, hein, c'était pas Ronaldo au sens de l'hyper médiatisation, présence médiatique actuelle, mais c'était des gens, j'allais dire, qui étaient présents au bord de la cheminée de tout un chacun.
On a une idée, par exemple, de la meilleure époque du ski, combien de pourcents de petits Suisses mettaient des skis une fois par année?
Ah, disons, si on en croit ce qu'on ne doit pas croire, on était quasiment à 100%, mais, ouais, mais probablement d'ailleurs que à travers les camps de ski scolaires, en fait, quelque part aux confins des années 80-90, on était sans doute à 100% de Suisses qui en fait se retrouvaient avec des skis au pied, ne se fût-ce que pour une demi-journée de ski de fond dans l'arrière-pays valois ou la vallée de Joux, je ne sais quoi. C'est quasiment probable qu'il y avait une espèce de mise en contact en fait, quelque part, à un moment donné ou à un autre, par le fait que l'école s'était donné pour mission, en partenariat avec le monde du sport, de faire ça, en fait. Donc là, il y avait probablement un moment où on a réussi, en fait, à atteindre, et si je suis honnête, quelque part, entre 80 et 90% de la population.
J'ai pensé cette nuit, quels sont les équivalents à l'international de ça? C'est le brésilien et le ballon de foot, l'américain et la balle de baseball. C'est super rare, cette proportion pour un sport.
En fait, je suis pas certain qu'on puisse trouver un équivalent parce que ben, le brésilien au football, à mon avis, la brésilienne, on est assez loin de tels chiffres. Ouais. Alors, si on prend le carré magique américain, baseball, foot américain, basket, hockey,
t'es pas loin.
On pourrait s'en approcher, mais il faut considérer quatre sports.
Et le softball.
Ensemble, et donc le softball comme version féminine du baseball, on pourrait s'approcher de chiffres identiques, c'est-à-dire des gens qui, au minimum une demi-journée, quelque part, auraient mis un gant de baseball, je ne sais quoi. Ça, c'est assez possible, mais il faut quatre sports pour faire ce que la Suisse a fait. Alors, si on est honnête, on dit que la Suisse, il y a quand même deux sports, parce que le ski de fond, le ski nordique, et à mon avis, un autre sport que le ski alpin, et on arrive aux 80-90 en Suisse seulement si on considère les deux ensemble. À voir si c'est un ou deux sports, mais bon. Mais peut-être qu'aux États-Unis on a ça, mais c'est une rareté, clairement, parce que si on prend l'Autriche, qui est souvent présentée comme le rival de la Suisse en termes de ski, voilà, bah, n'oublions pas que quand même, à partir de Vienne, on a encore quand même une centaine de kilomètres de plaine vers l'est. Bon, il y a certes de la neige en hiver, mais il y a peu de pistes, et voilà, donc ce qu'on n'a pas en Suisse, parce que par météo découverte à Bâle, si on est un peu sur une des deux tours blanches pas très belles au bord du Rhin, on peut voir l'Oberland bernois. Donc en fait, on est à une heure des pistes de ski alpin partout en Suisse. Et ça, l'Autriche ne peut pas l'offrir. Donc il y a une particularité topographique qui aide quelque part en Suisse.
Est-ce que tu penses qu'il y aurait pu y avoir un autre sport ou une autre discipline ou n'importe quoi qui aurait pu rendre star Vreni Schneider, dont le principal passe-temps à la maison est de tricoter? C'est assez emblématique, ça aussi.
C'est assez emblématique, et c'est ce qui fait aussi, à mon avis, une des réussites du ski, c'est qu'il a réussi à faire, parce qu'on a tendance aujourd'hui à rabâcher un peu l'opposition ville-campagne, elle a toujours été là, et en fait le ski a toujours permis aussi, et c'est d'ailleurs à mon avis un facteur important d'explication sur le pourquoi les champions sont possibles, c'est qu'en fait on n'a jamais eu que des champions de la ville, ou que des champions de la montagne, ou de la campagne, il y a toujours eu comme ça des gens un peu de partout, qui ont permis à toute la communauté nationale, y compris par-delà les barrières linguistiques, de s'identifier en fait à ça. Après, est-ce que d'autres sports auraient pu rendre star Vreni Schneider? Non, parce qu'en fait, justement, le ski est un sport, j'allais dire, de la campagne, d'ailleurs initialement créé par les urbains, hein, parce qu'au départ, c'était quand même un truc que les urbains ont importé dans les vallées, puis après, ça a été réapproprié. Mais les autres sports sont plutôt majoritairement des sports urbains, en fait. Alors, si je suis un peu... si on veut jouer avec les mots, on aurait pu penser que Vreni Schneider aurait pu devenir une héroïne en hornous ou en lutte suisse. Mais ces deux sports ont encore pas mal de progrès à faire sur
la féminisation.
Leur côté féminin. Alors, il y a des côtés, enfin, il y a des pratiques féminines qui existent, hein, de facto, mais elle est encore trop minoritaire pour en fait en fabriquer des stars.
T'en parlais, est-ce que le sport, c'est pas un des meilleurs facteurs d'unité nationale, et le ski en particulier? Parce que c'est la seule fois où on disait on pour Pirmin Zurbriggen ou pour Paula Kola, finalement. Alors que dans le reste de la vie, ça faisait moins société.
Et je pense que c'est encore le cas, d'ailleurs.
Marco Odermatt, c'est l'exemple.
Parce qu'en fait, on va pas se mentir, pour ceux qui ont l'habitude de franchir la barrière ou le fossé, selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de Rushdie, il y a une tendance en Suisse allemande à se suisse-allemandiser. Le suisse-allemand, on l'a vu récemment au Parlement, certains groupes ont essayé de le faire rentrer comme langue officielle, etc. Donc, et à la limite, pourquoi pas. Mais ce qui crée en fait quand même un écart entre les communautés, ou les sous-communautés nationales en l'occurrence. Mais dans le ski, Odermatt, on s'en fiche un peu qu'il soit suisse-allemand ou qu'il vienne d'un demi-canton subalterne. En fait, c'est une star, en fait. C'est en fait. Et j'allais dire, dans l'autre sens, Lara Goute, elle n'est pas vraiment interrogée sur son appartenance à un canton.
Bah, tout le monde pense qu'elle est à eux, quoi, en fait. Parce qu'elle est tessinoise, elle est suisse-allemande parfaite, et puis elle est jurassienne aussi.
Voilà, et puis elle est même partiellement par son mariage, en fait.
Voilà, en plus.
Avec un parcours migratoire récent, si on peut le dire comme ça. Non, mais c'est assez intéressant comme finalement, capacité d'un sport à faire corps, en fait. Et ça, je pense que, à part le ski, on ne le retrouve pas. Alors, si on met de côté l'idée du sport d'élite, même s'il y a des gymnastes qui sont très forts, la gymnastique le fait peut-être, mais sous les radars, en fait.
Ouais, bah, c'est comme le volley, la gym, le ski de fond, c'est ce qu'on appellerait en France des sports de préau, des sports d'école. Pourquoi est-ce que le ski est devenu, c'est lui qui a percé par rapport à certaines autres disciplines?
Bah parce qu'en fait, il a aussi un avantage, c'est qu'en fait, la gymnastique marche parce qu'en fait, il y a plus de sociétés de gym en Suisse que de communes, en fait. Parce qu'il y a certaines communes qui en ont deux, trois, voire quatre, parfois, une ancienne femme, une ancienne homme, etc., tous ces trucs classiques. Mais le ski a été d'abord un truc qui s'est fait dans des ski clubs, au départ, voilà. Mais le ski a aussi réussi à continuer ou à durer, parce qu'en fait, à un moment donné, quand le sport est devenu à majorité hors club, je mets du basket, je vais courir, je mets un petit training et puis je vais faire mes exercices dans le parc. Le ski, j'ai pas besoin d'être membre d'un ski club, en fait, pour le faire. Donc c'est ça qui fait sa réussite, parce qu'aujourd'hui, si on regarde d'ailleurs les membres de Suisski de facto, ça a tendance à diminuer. En fait, plutôt depuis les années 80, comme d'autres disciplines. Hein, le foot est plutôt dans une forme de stabilisation. Alors, si on corrige les données aussi par rapport à l'augmentation de la population ou autre, on se rend compte que la gym, le foot, le ski se sont stabilisés depuis les années 80 et les progrès dans la pratique sportive qui sont affichés année après année par l'Office fédéral du sport ou autre, c'est les nouveaux sports qui le capitalisent. Le mini-hockey n'existait pas à la fin des années 80. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de licenciés à travers la Suisse. C'est un fait. Mais le ski, en fait, c'est... Quand on dit que le ski est un sport national, c'est qu'on compte ceux qui sont membres de Suisski, quelques dizaines de milliers. Mais c'est tous les gens qui prennent, ne serait-ce que une fois par année, un jour, un abonnement quelque part, vont skier une journée. C'est des skieurs.
Ouais. Les plus grosses audiences en Suisse, en général, c'est Wengen, Adelboden, et éventuellement l'équipe de Suisse de foot quand elle fait un huitième de finale. Ça dit aussi beaucoup, et du coup, ça fait travailler toute l'industrie nationale médiatique, ça fait travailler l'armée, c'est un produit suisse.
Clairement, ouais, c'est le... Ah, voilà, le binôme Adelboden-Wengen traditionnellement en janvier, c'est le Tour de France de la Suisse, en fait, quelque part. C'est le moment médiatique que tout le monde attend. On espère évidemment à chaque fois des victoires suisses par un chauvinisme qui, en fait, est similaire un peu partout. Hein. Si on écoute le Tour de France en France, chaque année, on a des espoirs déçus. En tout cas, depuis quelques années, mais non, mais je pense que là, il y a vraiment un truc, disons, très fort, et puis une habitude qui est prise, en fait. Alors après, il y a tout plein de logiques médiatiques, hein, c'est pas toi que je vais l'apprendre, qui superpose, c'est aussi la SRF ou la SSR en l'occurrence qui est en charge de la production des images, donc en fait il y a de toute façon un dispositif qui est présent, parce qu'en fait la Suisse produit pour les autres quand c'est organisé.
Une sorte de savoir-faire aussi.
Il y a du coup un savoir-faire. Alors après, aujourd'hui, est-ce que le savoir-faire suisse ou autrichien est meilleur qu'on est à Kitzbühel? Ça se joue sans doute sur des détails, mais...
Mais c'est aussi une compète.
Mais c'est aussi une compète, mais finalement, ça crée, en fait, ce truc. Ben, on peut chacun s'interroger, finalement. Et, alors, peut-être que ça a un petit peu changé, hein, le côté samedi matin, dimanche matin, chez tonton Michel, comme je disais avant. Peut-être que ça a évolué avec les plus jeunes générations, mais je pense que les audiences, en fait, sont vraiment... à entendre collectivement, c'est-à-dire que quand un poste de télévision est allumé devant Adelboden ou Wengen, il y a sans doute plusieurs personnes derrière, peut-être même un peu plus que ce que les statistiques en général disent, en fait.
Dans cette optique, comment toi, en tant qu'historien, tu as vécu l'épisode Zermatt qui essaye d'avoir sa compète, ce qui paraît être logique, en fait. La question, c'est pourquoi est-ce que Zermatt l'a pas eu avant, finalement? Bon, vous en avez peut-être pas besoin. Mais comment tu vis cette tentative de s'imposer dans un circuit avec une image très suisse, même si c'est un bout en Italie? Ça va être très intéressant, limite sociologiquement, cette descente de Zermatt.
Sans prendre parti dans un débat, parce que c'est un débat compliqué, mais ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'à mon avis, si quelqu'un s'attardait véritablement sur les bulletins météo depuis 25 ans là-bas, entre mi-octobre et fin novembre, on se rendrait compte qu'en fait, ça, à mon avis, ça a été possible une ou deux années sur les 25 dernières années, dans tous les cas. Donc ça, c'est déjà un truc. Après, on sait que les changements de gouvernance à droite à gauche, à la FIS, etc., ont aussi joué un rôle là-derrière. Honnêtement, quand on regarde les chiffres du tourisme aujourd'hui, Zermatt en a pas besoin. C'est une destination qui s'est imposée de par des logiques de circuit touristique, que ce soit la boucle ouest entre Lausanne, Lucerne, Berne, Bâle, ou voir la boucle est, parce que le glacier express qui va jusqu'en Engadine, en tout cas jusqu'à Coire, part de Zermatt. Mais Zermatt comme la destination touristique de la Suisse, alors les multiples campagnes fédéraires ou autres qui font du Cervin le centre touristique joue un rôle. Quiconque a déjà pris le train entre Viège et Berne à n'importe quelle heure du jour et de la semaine se rend bien compte que de toute façon on est aux limites du système. Mettre encore un quart de japonais en plus, c'est pas à mon avis, on peut le faire, mais il faut leur dire qu'ils seront debout une partie du trajet. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est compréhensible, parce que finalement tout le monde a envie d'avoir sa part du gâteau. Il n'y a pas de raison que Zermatt ne la réclame pas, ne l'obtienne pas, n'essaye pas de l'avoir. Maintenant, est-ce que c'est sage de s'entêter? Des contrats ont été signés, on ira sans doute au bout des contrats. On espère qu'un jour il y en aura une, alors on espère pour qui, en tout cas pour Zermatt même, pour qu'il puisse en fait réussir au truc, pas systématiquement. Être critiqué pour le mettre en place et après être critiqué pour pas l'avoir fait, parce que bon, on peut pas critiquer les gens deux fois, je pense. C'est un peu...
On peut, t'inquiète.
Donc on peut, on devrait et on doit. Mais c'est intéressant en fait de voir aussi comment ça engendre des dynamiques peut-être de génération aussi sur comment on voit les choses. On le sait, la réélitisation du ski, c'est aussi une forme de vieillissement de la population qui skie. Les jeunes skient quand même un peu moins. Les camps de ski sont moins systématiques en 2023 qu'ils l'étaient en 1993. Voilà, le ski dans 30 ans, alors on va pas rentrer dans le débat, il y aura de la neige, il n'y en aura plus. Parfois, on verra, quoi.
On en trouvera.
Et s'il faut, on en produira, parce qu'on le fait déjà, de toute façon, à partir de mi-octobre. Donc, ouais, c'est... Mais...
Ouais. En écrivant ce bouquin, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Est-ce que t'as découvert des trucs? Tu t'es dit, ça je savais pas, ça va être un chapitre énorme.
Bon, s'il y a un truc, alors c'est en filigrane, parce que c'est même pas l'objet d'un chapitre, pour des raisons un peu liées à l'équipe qui l'a construit, mais il faut se rendre compte, en fait, de la richesse que le ski a produite dans les stations, en fait. Je me suis un peu amusé, comme ça, je suis allé chercher un peu dans différentes stations, parce que mon idée, c'était de trouver l'année dans laquelle le ski était le moins cher en Suisse. Donc, j'ai essayé de faire des statistiques, des séries, en corrigeant le coût, en fait, d'une semaine, en ne prenant déjà que l'abonnement, puis après en essayant de regarder jusqu'au prix du Coca-Cola ou de la piste. Mais je suis allé regarder en fait ce que les remontées mécaniques ont généré comme richesse, en fait. C'est pharaonique, en fait. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas dans du capitalisme vorace qui en fait a fait partir du capital à des actionnaires aux quatre coins du monde. Donc, ça a été majoritairement réinvesti dans l'infrastructure suivante. Mais c'est quand même des infrastructures qui, pour la plupart, en moins de 10 ans, se rentabilisent, quoi. Donc quand on sait qu'une infrastructure de ce type-là, c'est en gros 20-25 ans, au bout de 20-25 ans, tu dois la refaire. Parce qu'elle est devenue trop petite, elle est plus assez puissante, etc. Mais ça veut dire qu'elle a sur la première moitié de sa vie, elle se rembourse, et sur la deuxième moitié de sa vie, elle fait du cash, qui après est réutilisé pour la suivante. Mais entre-temps, il y a quand même une partie... Et ça, c'est un, quand on parle des fois de l'industrie touristique suisse, etc., alors il y a vraiment un truc où le ski a généré de l'argent dans des proportions importantes. Alors, et c'est pas, je le dis pas en forme de critique, là ils se sont enrichis, mais c'est si le ski en fait a réussi dans les années 78-90, c'est aussi parce que dans les années 50-60-70, il a lui-même généré les conditions de sa réussite sur le plan économique. Et donc, avant, on parlait entre le foot, entre machin. Le foot est un sport qui coûte pas grand-chose. Hein. Achète une paire de godasses et une paire de cuissettes et tu vas jouer. Mais le ski, en fait, qui lui demande de l'infrastructure, en fait, les gens n'ont pas véritablement payé au juste prix à la journée, parce qu'en fait, il a lui-même, enfin, il y a un truc impressionnant de ce point de vue-là. Et ça, c'est peut-être moi le truc qui m'a le plus marqué dans l'écriture.
C'est bien parce que tu étudies le sport depuis des années et t'es encore surpris.
Ah, clairement, parce que bon, de toute façon, c'est un truc. Alors, intéressant, c'est, comme je disais, c'est peut-être le sport national, mais qui avait jamais fait l'objet, en fait, d'un vrai travail, en fait, un peu d'enquête approfondie sur un siècle et 30 ans d'histoire. C'est pas pour dire, regardez, on l'a fait entre les premiers, mais il n'y a jamais vraiment eu un truc aussi dense, en fait, qui a été écrit. Encore une fois, sans tirer la couverture au bouquin, dont je recommande la lecture, mais non, mais c'est intéressant, en fait, de faire ce genre de truc, parce que tu découvres des choses, et en même temps, tu sais pas encore la moitié de ce que tu pourrais savoir sur ce sport. Il y a plein de choses, en fait, qu'on n'a pas, et je parlais des camps de ski, mais la moindre boîte d'assurance, que ce soit la vaudoise, la baloise, ce que tu veux, avait ses propres camps de ski, a construit un demi-bâtiment à Lézin, à Crans-Montana, à machin, où ils envoyaient leurs employés. Et c'est ça aussi qui fait le succès du ski, en fait. Et autre chose qui m'a un peu marqué, c'est ce... À un moment donné, tout le monde a voulu y aller, quoi. Et le moindre petit entrepreneur du coin s'y est mis d'une manière ou d'une autre, en fait.
C'était même pas un synonyme de réussite, en fait, parce que c'était très démocratisé. Peut-être maintenant, t'as réussi, tu vas à Zermatt, et puis t'as pas réussi, tu vas au Paco, mais c'est quand même quelque chose de pas d'omission, mais qui est nécessaire à montrer sa réussite aussi.
Ouais, je pense qu'à un moment donné, alors... Mais en fait, une réussite, pas au sens même qu'on l'entend aujourd'hui, où on est retombé dans des travers un peu peut-être, d'ailleurs, plutôt du début du XXe siècle, sur une société un peu morcelée entre des élites et puis, j'allais dire, le ventre mou de la société, les classes moyennes. Il y avait un côté, certains pouvaient comme surtout. Alors, on est d'accord que si tu vas dans certains cercles très privés à Saint-Moritz, à Davos, à Zermatt, il n'y avait pas tout le monde dans les années 70 non plus, hein, mais j'ai envie de dire... Et sans faire forcément de la promotion pour une marque ou une autre, avoir sa paire de skis sur sa 4L dans les années 70-80, c'était clairement un truc qui en fait te faisait appartenir à un groupe social, mais qui en fait était le groupe de tout le monde. T'étais pas, voilà, il n'y avait pas encore non plus de distinction entre ah, t'as telle paire de skis, t'as machin, c'est, t'as une paire de skis sur le toit de la bagnole, c'est bon, t'as réussi.
Ce sera ma dernière question, ce sera un peu plus international. À quel point l'image de la Suisse est construite avec le ski? Parce qu'on a tous, on s'est tous énervé derrière un Belge ou un Néerlandais qui sait pas faire des virages en montagne et justement avec les skis sur le toit. Mais dans quelle mesure à l'international aussi, c'est je suis allé skier en Suisse, j'ai réussi?
Bon, c'est clairement ça, je pense. Il y a ça, et puis si on regarde, c'est intéressant parce que les dernières campagnes de pub de la Suissière, par exemple, dans les années 90, début des années 2000, en fait, ils axaient là-dessus, en fait. Ils étaient évidemment sponsors, comme Suisse aujourd'hui, des équipes nationales. Mm-hmm. Et c'était vraiment un truc, en fait, skiers fly to Switzerland. Enfin, c'est un truc qui a toujours été à la fois dans l'imaginaire, construit par des acteurs du tourisme, comme les compagnies aériennes ou autres. Et voilà, alors après, ce qu'il faut se dire par contre, c'est qu'à l'échelle du continent européen ou du massif alpin, la Suisse a toujours été le pays le plus cher. Donc, à l'étranger, c'était quand même distinctif en fait de venir en Suisse. Hein. Et, disons, si je prends mon exemple, voilà, qui est grandi en Alsace, on allait skier en Autriche parce qu'en fait, c'était moins cher que d'aller en Suisse. Donc, on pouvait. Peut-être on aurait pu aller en Suisse quand même, mais on aurait été obligé de se restreindre sur d'autres choses, et donc on avait fait ce choix. Mais mis en perspective, c'est intéressant parce qu'en fait, tout ce que la Suisse a entrepris en fait pour construire son ski alpin comme on va dire ressource touristique économique a toujours été fait sur cette ligne-là. C'est-à-dire quand on crée les premières écoles de ski en fait dans les années 30, on a pour mission en fait de créer une manière d'apprendre le ski qui soit plus simple que la manière autrichienne, pas pour la rendre moins chère, mais pour la rendre plus attractive et plus facile, en fait. C'est-à-dire, l'Autrichien te disait, ben voilà, tu dois venir une semaine et tu vas apprendre une semaine pour skier. Le Suisse te disait, ben en trois jours, tu seras autonome sur les skis. Et tu skieras plus joli. Enfin, ça, c'est le joli, on peut en discuter, mais. Et ça, ça a continué comme ça dans le temps, mais. Voilà, la Suisse est. Et a été un îlot de cherté en Europe, malgré tout, depuis longtemps. Donc, oui. C'est je dois être allé en Suisse pour avoir réussi, pour ne paraphraser personne, mais malgré tout, les flux néerlandais, belges, français,
anglais beaucoup,
anglais, sont quand même finalement ont irrigué tout le massif alpin et pas seulement la Suisse, quoi. Donc ça c'est un point, avec évidemment des transformations de ces flux avec le temps. Aujourd'hui, ben voilà, quand on va à Genève Aéroport en saison, il y a comme ça des couloirs directs qui t'amènent de l'avion EasyJet à ton petit autobus de ton école de ski britannique, et puis en fait t'es dans un entre-soi, qui fait que voilà. Dernier détail, quand même, hein, ben, le Club Med en fait avait fait de la Suisse dès les années 60 un haut lieu en fait de ses destinations hivernales. En construisant une offre parallèle à l'offre française, d'abord à Lézin, puis après à Saint-Moritz et ailleurs. Donc ça montre bien qu'en fait, ces dynamiques internationales, elles étaient fortes assez tôt finalement.
Du coup, on comprend mieux qu'il y a, avec le changement climatique, il y a une petite panique à ce niveau-là. Il va falloir se réinventer. Et maintenant, on voit que dans beaucoup d'endroits, ils tirent à fond le ski avant de trouver autre chose. Parce qu'on voit ces bandes blanches au milieu de prix vert. ouais, pas sûr que ça aille dans le bon sens à ce niveau-là, mais la Suisse a besoin de ça.
La Suisse a besoin de ça, ou en tout cas, elle a besoin de se dire que. Bah, non. La Suisse a besoin du ski, donc c'est pour ça qu'on voit une forme un peu d'enfermement dans la logique du que du ski, qui en fait est celle qui existe depuis les années 60. Donc on va pas leur reprocher d'essayer de poursuivre un truc qui en fait est leur quotidien. Ah, si on repense à Zermatt, Yulen qu'on a vu fréquemment à la télé récemment, ben voilà, c'est même pas une critique, c'est qu'il a grandi là-dedans, il est là-dedans. Donc. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ben, on le voit bien de ci, de là, les manières de faire peuvent changer. Si on prend l'exemple de Saint-Moritz, hein, si on regarde en proportion, en fait, hein, quand on regarde le nombre de visiteurs de la station en hiver, moins d'un visiteur sur deux fait du ski. Donc ça veut dire que plus d'un visiteur sur deux fait autre chose. C'est peut-être du ski de fond, parce qu'on ne peut pas directement les enregistrer au sens d'un abonnement comme le ski alpin. C'est peut-être de la randonnée en raquette, à pied.
Du polo
pour certaines et certains, sans doute, non, mais c'est pour dire, en fait, on a des fois l'impression aussi que tous ceux qui vont quelque part font du ski, mais en fait, il y a quand même, alors, dans les stations très orientées ski, la proportion monte un peu jusqu'à 70, hein, mais il y a quand même 30% de gens qui font autre chose.
Ouais.
Et rien ne nous dit que, en fait, ce que font ces 30% de gens ne va pas devenir plus attractif aussi pour d'autres, changer. Alors, on va pas se mentir, on va le dire une bonne fois pour tout, le tourisme 4 saisons, ça n'existe pas.
À printemps, à automne, c'est difficile.
Disons, ouais, sur de la terre mouillée qui glisse, tu fais pas grand chose, à part attendre qu'elle devienne sèche. Et donc, quand elle est sèche, on est en été. Globalement, non. Non, mais ce qu'il faut envisager, c'est dans des situations hivernales mouillées, que ce soit de la neige, de la glace ou autre chose, trouver d'autres offres. Et l'histoire est intéressante parce que, comme je le disais au début, on boucle la boucle. Au début, on est à feu du tourisme d'hiver. Sans ski. Alors est-ce qu'on va tous se remettre à faire du bob? J'en sais rien, parce que c'est peut-être pas non plus le truc attractif là, mais on le voit si tu regardes les chiffres, typiquement des endroits qui ont des pistes de luge ou autre, le nombre de gens qui font de la luge augmente. Alors, est-ce que c'est aussi attractif que le ski? J'en sais rien, mais c'est une offre qui peut exister.
Donne-nous envie de lire ton bouquin. C'est pour un Suisse, c'est très intéressant.
Je pense, ouais, et même pour ceux qui seraient pas suisses, en fait, hein, qui auraient envie, à travers la lecture, de s'intégrer, j'en sais rien. Ça a toujours été ma démarche, en fait, de m'intéresser à l'histoire suisse pour m'intégrer, en fait, quelque part. Non, mais je pense que c'est, je l'espère, une histoire où quand chacun, chacune va la lire, ça va faire un petit truc à chacun. Que ça soit avec les images, de dire, ouais, tiens, je me rappelle, j'étais à tel endroit. On a essayé de balayer large, de ne pas se focaliser sur une ou deux stations. Donc, on espère en fait qu'on va réussir à accrocher tout le monde par une anecdote, par un truc. C'est aussi un truc collectif. Donc, j'en ai parlé, mais on est 25 à avoir contribué à l'intérieur. Donc, il y a aussi différentes manières d'écrire. Donc, si certains écrivent de manière un peu entraînante, ils pourront passer un chapitre et passer à l'autre. C'est pas non plus un livre où on parle des champions. Hein. Il y a quelques pages où on parle de quelques grands noms, mais on parle aussi du premier téléski du canton de Fribourg, par exemple. On parle de choses, en fait, plus en fait du courant de la vie des gens quand ils sont allés au ski, en fait. C'était un peu le défi, en fait, de pas tomber dans la tarte à la crème de nos champions, nos championnes, etc. Ce qui est intéressant aussi, mais
voilà. Ça a déjà été fait aussi.
Ça a déjà été fait, refait. Et puis voilà. Donc il y a le mot Zurbriggen, il y a le mot Russie. Donc, tout va bien. Mais comme dit, il y a aussi le mot téléferrage, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelait le téléski de Beftae de FT, en fait, à Fribourg. Donc voilà, il y a tout plein de choses à découvrir, et surtout, et aussi des images.